fin du foot. Encore ce soir sur RFI, la Ligue des Champions, 6e et dernière journée des phases de groupe. Le PSG, qualifié déjà pour les 8e, affronte la Juventus. Ce sera à suivre sur notre antenne à partir de 20h. Temps universel, midi et 10 minutes à Paris.
Radio G, 101.5 FM.
Les voix de l'écho.
Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien branchés sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'Écho. En ce début de mois de novembre, je souhaitais réaliser une émission spéciale. Pas un invité, mais quatre. Oui, vous avez bien entendu, quatre invités. On peut les appeler les quatre mousquetaires ou encore les quatre fantastiques. Ce qui est sûr, c'est que ces quatre personnes ont bien fait de se rencontrer car ils forment une équipe de choc. Cette Dream Team, c'est nous. Et oui, en effet, je souhaitais, pour cette émission spéciale, mettre à l'honneur l'équipe des Voix de l'Écho. Vous raconter les coulisses de l'émission, mais aussi découvrir qui nous sommes, en dehors de notre participation sur Radio G. Le format ne change pas, hein, car vous aurez bien deux parties entrecoupées d'une pause musicale. Dans la première partie, vous allez découvrir une nouvelle chroniqueuse en la personne de la coach Anne Texereau. Je vais également vous parler des coulisses de l'émission, puis nous allons en découvrir plus sur le chef Hervé Chéneau. Juste avant la pause musicale, je vous parlerai aussi de qui je suis en quelques mots et ce que je fais en dehors de l'animation de cette émission. En deuxième partie, vous découvrirez plus en détail Anne Texereau, puis nous écouterons la traditionnelle chronique gastronomique du chef, et vous découvrirez la crash testeuse presque zéro déchet, Charlène Chanteloup, dans son quotidien. Tout un programme qui, j'espère, vous plaira, chers auditeurs et auditrices.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Je vais être franc avec vous, je n'ai pas le don d'ubiquité. Et pourtant, pour animer cette émission, je suis au maniement de la console numérique, puis à l'animation. Il faut faire preuve de rigueur et de concentration pendant les 50 minutes que dure cette émission. Comme tous les animateurs de Radio G, la principale difficulté est de gérer à la fois la technique et de suivre le déroulé de l'émission qui a été préparée. Car oui, une émission de radio se prépare. Dans le cas des Voix de l'Écho, il y a d'abord la recherche de l'invité du jour. J'utilise mon réseau pour trouver une personne inspirante et intéressante. Car ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou est bien évidemment une émission économique, car l'on parle d'entrepreneuriat, mais également une émission humaine, car ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est les gens qui bougent et qui animent le territoire local.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Dans cette émission, j'ai un chroniqueur régulier, pour ne pas dire à demeure, en la personne du chef Hervé Chéneau. Mais qui est-il ? Je suis allé à sa rencontre chez lui, où en terrasse, il s'est prêté au jeu de l'interview. Magnéto. Bien alors, chef Hervé Chéneau, merci de vous prêter aussi au jeu de l'interview. Alors, racontez-nous un peu qui vous êtes et d'ailleurs, pourquoi on vous appelle chef ?
Ah bah pourquoi on m'appelle chef ? Et pas parce que j'ai une carrière dans la restauration où je suis passé par un CAP cuisine puis un BP cuisine Donc j'ai voyagé en fait, j'ai pu découvrir Nantes, Paris, Saintes en Charente-Maritime, et puis après je suis parti au Danemark pendant un an, mmh. et revenu sur Angers en tant que chef de cuisine pendant 4 ans.
D'accord.
Alors on m'appelle chef effectivement, oui, pourquoi? Bah parce que dans ce milieu-là de la restauration, on a tous un grade. Et moi, c'est un petit peu le Graal que de devenir chef et qu'on m'appelle chef.
Ok, c'est un peu comme les ministres. Une fois qu'ils sont ministres, on les appelle tout le temps Monsieur le Ministre.
Exactement, et puis en plus, c'est à vie. Hein. Mmh. Je me rends compte aujourd'hui, même vous Yves, vous m'appelez chef régulièrement. Donc c'est assez plaisant.
Et donc, quel est ensuite votre parcours après la cuisine, du coup?
Alors après la cuisine, quand évidemment, à un moment ou à un autre de sa vie, on va fonder une famille. Et le jour où je me suis marié, qu'on attendait notre premier enfant, Chloé, j'avais décidé de changer d'orientation puisque ma femme était commerciale, moi chef de cuisine. On avait des horaires qui étaient complètement fous, donc il fallait que je trouve une solution. C'est moi qui ai trouvé la solution en me retrouvant embauché à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Et donc là, j'ai trouvé des horaires un peu plus réguliers, un peu plus continus, et là, ça m'a permis de voir grandir mes enfants.
D'accord. Et donc toujours dans la cuisine, j'imagine.
Alors toujours dans la cuisine, mais un petit peu en décalé, puisque ça, c'est un peu le travailleur de l'ombre. C'est ce qu'on appelle un économe. Donc je suis rentré à la CCI en tant qu'économe, et en étant en parallèle, en ayant un poste de gestion du self-service. Cette partie-là, bah, elle était bien confortable pour moi parce que je me retrouvais à travailler d'ailleurs pour la première fois à un ordinateur. Et ça a duré 10 ans, où je fournissais tout ce qui était alimentaire pour les chefs de cuisine, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, les barman, la vaisselle, le linge, je m'occupais de tout ça.
D'accord. Voilà. Combien de temps vous avez fait ça?
J'ai fait ça 10 ans.
10 ans.
10 ans. Okay. Et par la suite, une partie de ce travail-là s'arrêtait, puisque le self-service était cédé à une société extérieure, la chambre de commerce ne voulait plus s'en occuper. Et donc on m'a dit, vous allez être prof de cuisine. Ah, prof de cuisine, pour moi c'était vraiment quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, parce que je voyais mes collègues râler après les élèves tous les jours, et moi c'était pas du tout mon ADN. J'avais plutôt un état d'esprit un peu... comme on a parlé du Danemark tout à l'heure, un esprit un peu à la danoise où on respecte les gens qu'on a en face de soi. Et donc j'y suis allé un petit peu à reculons dans ce métier de prof de cuisine, et j'y suis resté 20 ans. Mmh. Et j'ai vraiment vraiment adoré. Et c'est là aujourd'hui, quand on revient au mot chef, je vois par exemple aujourd'hui des jeunes qui sont passés entre mes mains revenir me voir après, je sais pas, 10 ans, 15 ans, et me dire chef, monsieur Chesneau. Et pour eux, il est impossible de me tutoyer et de m'appeler naturellement monsieur Chesneau. C'est toujours chef. Comment allez-vous?
Ouais, il y a vraiment dans la cuisine cette notion de respect, je trouve, qui est vraiment incroyable, quoi.
C'est... Ouais, il y a une notion de respect, mais c'est aussi très militaire. Quand une personne vient de l'extérieur, on est un petit peu, on a l'impression que les jeunes sont un peu fliqués, un petit peu comme à l'armée. Mais s'il n'y a pas de structure dans une cuisine ou dans un restaurant, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a un ordre de travail, un ordre hiérarchique, et par exemple quand on explique, on vient annoncer un menu, un serveur vient annoncer un menu en cuisine, le chef va expliquer ce menu dans le détail à toute sa brigade, puisqu'on parle de brigade, hein, on est bien dans une brigade, tout le monde doit répondre oui chef en même temps.
D'accord. Et s'il y en a un qui répond pas oui chef,
C'est qu'il est en dehors du système, et que là rapidement il faut le remettre en selle, parce que s'il a pas entendu la consigne, il ne peut pas avancer dans la préparation du repas ou du menu des clients.
Oui, et puis surtout quand il y a des coups de feu aussi, donc les parties ou les moments où il y a vraiment beaucoup de monde, là il faut.
Ah, le coup de feu. Ouais, le coup de feu, mais ça c'est une partie qui me manque beaucoup aujourd'hui, parce que le coup de feu, ça c'est une espèce d'adrénaline qui monte entre midi et 14h. Où là, on sent la pression monter dans toute l'équipe, dans toute la brigade, y compris le chef. C'est un moment important où tout le monde doit être à l'écoute, on doit être vraiment vigilant avec ce qui va arriver, les bons, la suite, la préparation, et puis vouloir satisfaire le client.
D'accord. Et il y a souvent du débriefing qui est fait derrière avec le, alors, la brigade et le chef.
Oui, oui, il y a toujours un briefing et un débriefing. Et ça c'est très important pour sceller une équipe. On ne peut pas laisser partir une équipe ou une brigade sans avoir fait un débriefing. Ça c'est juste impossible. On a besoin de reparler du service qu'on a vécu pendant 2 heures et c'était assez intense. Et si effectivement il y a eu des couacs ou des anomalies, on est obligé de trouver et solutionner pour que ça se passe mieux le soir après, puisqu'il y a le service du midi et le service du soir. Donc il faut se préparer aussi pour le soir.
Oui, si on rumine encore dans sa tête finalement ce qui a pu mal se passer.
Oui,
midi,
on peut l'emmener aussi sur le service du soir et ouais. Ça c'est pas très bon.
D'accord.
Et on n'a pas envie de ça en tout cas en cuisine.
Et après la cuisine, du coup, qu'est-ce que vous avez fait?
Après la cuisine, après ces 20 ans, je me suis retrouvé à ce qu'on me propose un poste de développeur de l'apprentissage, toujours à la CCI. Développeur de l'apprentissage, ça consistait effectivement d'aller être un peu transversal. Je sortais un petit peu du monde de la restauration pour aller vers les gens. Ça, c'était vraiment une nouveauté pour moi. J'en avais le souhait, mais sans pouvoir l'identifier. Et la CCI est venue me chercher pour pouvoir partir sur ce poste de développeur de l'apprentissage, qui était une création de poste, et pour pouvoir développer l'apprentissage, puisque je suis aujourd'hui développeur de l'apprentissage depuis 2016. Il fallait absolument que j'aille au contact des entreprises, des chefs d'entreprise, des clubs, des associations, pour comprendre quels étaient les besoins des chefs d'entreprise.
Pour ensuite proposer des étudiants, enfin
à des étudiants, à des apprentis en alternance, leur proposer toutes les filières que l'on a en apprentissage, puisque nous à la CCI on est un centre de formation très important, enfin 3 centres de formation, Angers, Cholet, Saumur, et qui appartiennent à la CCI de Maine-et-Loire. Et aujourd'hui on est le plus gros centre de formation avec 3800 apprentis. Vous imaginez bien que c'est un travail assez phénoménal. On doit prendre conscience qu'on a 17 filières et 90 diplômes à l'intérieur de la CCI.
Mais donc pas que la cuisine.
Pas que la cuisine, non. Même si je suis encore très attaché à la restauration, c'est plus fort que moi d'ailleurs. De toute façon, quand on se retrouve dans les chroniques, vous imaginez bien que si je suis aujourd'hui là pour les chroniques gastronomiques, c'est évidemment parce qu'il y a un intérêt majeur pour moi de partager ça en fait avec les auditeurs de Radio G.
Aujourd'hui, vous avez peut-être des envies d'entreprendre aussi, peut-être, ou...
Alors oui, des envies d'entreprendre. Je travaille aujourd'hui pour après ma retraite pouvoir me retraiter ma vie. Donc je suis parti sur un projet d'orientation. Mais il y a aussi quelque chose qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est les réseaux d'entreprise. Je suis cofondateur d'un club qui s'appelle RESA, Réseau Entreprise Sud Angers, qui se trouve à Orgemont. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette partie-là? Il n'y avait pas de club déjà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui à Angers, c'est un secteur d'activité qui est le plus actif sur Angers, puisque c'est pas moins de 350 entreprises qui arrivent aujourd'hui dans le secteur d'Orgemont, à côté de la Roseraie.
Et donc l'objectif, c'est un peu de dynamiser finalement et de faire se rencontrer les...
Se rencontrer, se connaître, les chefs d'entreprise entre eux, les salariés et chefs d'entreprise. En fait, savoir si on a... C'est même pas savoir. On est persuadé, nous, à l'intérieur du Club Réza, qu'on a tous des besoins communs. Et l'intérêt, c'est d'aller le soir mettre la clé sur la porte de l'entreprise et puis traverser la route pour aller dans l'entreprise d'en face, la visiter, découvrir le chef d'entreprise, ses salariés. Et ça, c'est un moment absolument merveilleux. Ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup.
Ok. Et je crois savoir que vous faites aussi du théâtre d'improvisation.
Ah.
Il me semble que je vous ai vu sur scène une fois.
Très juste.
Qu'est-ce qui vous anime dans le théâtre d'impro?
Alors, je faisais du théâtre traditionnel depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années je faisais du théâtre traditionnel. Les textes commençaient à me gaver sérieusement, si on peut parler comme ça. Je ne voulais plus apprendre et j'avais vraiment très envie de monter sur scène, mais surtout plus à réfléchir, enfin à réfléchir, si, on va réfléchir beaucoup dans le théâtre d'impro, mais c'est le public qui vous donne le thème et vous n'avez pas, vous devez en partir tout de suite sur le sujet, inventer un sujet, et ça c'est absolument très bien. Alors pourquoi ça m'anime le théâtre d'impro? C'est parce que j'ai un besoin, moi, en tant que grand timide par le passé. J'étais quelqu'un de vraiment timide. Ça m'a apporté énormément ce côté théâtre d'impro. J'y ai trouvé un atout majeur dans le fait qu'aujourd'hui je peux aborder des chefs d'entreprise, des cadres, des dirigeants sans peur. Et ça, c'est grâce au théâtre d'impro. Et dans l'impro aussi, on apprend à être vrai, à être positif, de ne jamais refuser le sujet de l'autre, la personne qui est en face de nous. On est toujours positif et on est toujours d'accord avec la personne qui est en face de nous, même si on va contourner un peu la situation après. Mais on apprend à être, toujours positif et vraiment aller de l'avant. Ça aide énormément dans le quotidien, en fait.
Du coup, quand vous accompagnez des jeunes, là, au niveau du développement de l'apprentissage, est-ce que vous leur parlez aussi de... Voilà, ils ont leur savoir-faire technique, mais il n'y a pas que ça. Là, on le voit très bien. Le à côté, le théâtre d'impro, c'est hyper important. Est-ce que vous essayez de montrer du doigt d'autres types de compétences qu'ils peuvent avoir pour essayer de les motiver?
Ah ben, alors, c'est un point d'honneur que vous marquez là. Quand on est étudiant, on le sait bien, et j'en côtoie tous les jours, ces jeunes-là, en fait, ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur et de passion. Et c'est ce que je vais mettre en avant quand je les reçois et quand on les accompagne vers l'apprentissage. Je vais plutôt sur le CV faire tout remonter, passion, talent, et leur dire surtout aussi que s'ils pouvaient par bonheur passer par le théâtre d'improvisation, ça les aidera beaucoup dans la vie. Ils auront peut-être un peu moins peur de tout et ils seront peut-être un peu plus présents dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément dans ce que je fais dans mon quotidien. Donc l'impro a une place importante dans ma vie, ça c'est vrai. Oui.
Super, merci beaucoup Hervé Chesneau, chef. On en sait beaucoup plus sur vous et on va encore beaucoup plus se délecter à écouter vos différentes chroniques gastronomiques.
Eh ben merci Yves.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
À partir de ce mois de novembre, tous les mois, et en alternance avec Charlène Chanteloup, vous aurez la chronique « Je sème, donc je suis » d'Anne Texereau. Nous ferons plus ample connaissance avec Anne en deuxième partie d'émission, car il est temps d'écouter maintenant sa première chronique dans les Voix de l'écho.
Je sème, donc je suis, une chronique de la coach Anne Texereau. Cela peut vous surprendre, mais nous sommes bien en automne, malgré les températures clémentes de cet été indien qui se prolonge. Je souhaite vous parler de la symbolique autour de l'équinoxe d'automne. Le mois d'octobre succède au mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année. En numérologie, cela correspond à la fin d'un cycle. Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année, et en réduction, il correspond alors au chiffre 1. C'est donc un nouveau départ ou un nouveau processus. Certains d'entre nous peuvent d'ailleurs ressentir cette sensation de yo-yo énergétique entre septembre et octobre. Quitter l'ancien et aller vers le nouveau ? Il s'agit effectivement du passage vers un nouveau monde. C'est la fin de notre petit moi pour accueillir un processus du nouveau moi, notre être véritable. Et cela est valable tout aussi bien pour notre monde intérieur, mais aussi dans le monde extérieur autour de nous. Je parlais de yo-yo énergétique, car certains d'entre nous peuvent ressentir des tensions intérieures, des forces contraires, ou encore comme une pression dans l'air. Rappelez-vous, en automne, l'ensoleillement diminue, l'arbre se met alors au repos et va vivre au ralenti. Quand les températures chutent, la sève ne circule plus et les arbres préfèrent se débarrasser de leurs feuilles car elles consomment trop d'énergie. Alors, je vous invite pour ce mois d'automne à descendre au fond de vous-même, dans votre grotte intérieure, pour aller retrouver votre propre centre, pour aller vers plus d'alignement et de stabilité. Il s'agit alors d'arrêter toute agitation, d'adoucir nos émotions, nos comportements, de lâcher aussi nos certitudes, nos croyances ou encore nos vieilles pensées. Mais vous me direz, mais comment on fait tout ça ? Eh bien, tout simplement, on ralentit. On se coupe aussi de tout le brouhaha extérieur. Pas la peine d'étayer ce point, je crois. Ce brouhaha qui nous fragilise et peut nous déstabiliser. On remet de la lenteur et de la douceur. C'est le moment pour se donner du temps pour soi, par des temps de pause, en prenant soin de soi, à l'écoute de ce qui résonne en nous et nous fait plaisir. Par exemple, en écoutant de la musique, en se ressourçant par des lectures nourrissantes, ou encore en faisant même la sieste et sans culpabiliser. N'avez-vous pas remarqué comment la nature nous montre le chemin en se préparant avant l'hiver, en descendant en soi et à l'écoute de notre être essentiel, l'automne sert alors à remettre de la douceur dans nos vies. Ainsi, nous découvrons notre force intérieure, toujours présente en nous. Alors j'ai envie de vous poser cette question pour continuer de réfléchir sur ce partage. Qu'allez-vous faire prochainement pour vous, tout en douceur, pendant cette période automnale ? Je vous souhaite bonne introspection, belle réflexion, et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine chronique.
Merci Yann pour cette très belle première chronique. Alors personnellement, et pour répondre à la question, en cet automne 2022 et pour redémarrer en douceur, j'ai pris le parti pris de prendre plus de temps pour lire ou pour aller me balader dans la nature tout seul afin de me ressourcer.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Je vais maintenant vous parler un petit peu de moi, effectivement. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Dans la vie, donc, je suis entrepreneur du numérique, formateur, consultant, finalement, au multimédia. Pendant quelques années, j'ai eu une entreprise de production vidéo. Aujourd'hui, je me consacre quasiment qu'à la formation, que ce soit dans les entreprises, dans les services marketing, par exemple, ou web marketing, où je forme les collaborateurs aux outils numériques, que ce soit Excel, Word, PowerPoint, mais également le montage vidéo, les effets visuels ou la prise de vue, comment filmer avec un smartphone également. J'interviens aussi dans les universités, par exemple, depuis 7 ans, je suis vacataire à l'université d'Angers, et je suis également intervenant extérieur professionnel à la Cato, donc l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Pour cette émission spéciale, j'ai moi-même choisi le titre que nous allons écouter. Il s'agit de Radio Gaga de Queen. On reparle de ce choix musical juste après. Bonne écoute.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours branché sur Radio G, vous venez d'écouter Radio Gaga de Queen. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que Queen c'est mon groupe favori. Et puis Radio Gaga est un hommage à la radio, un média que moi j'adore énormément également. Et je trouvais ça plutôt à point nommé de faire un hommage à la radio et à ce superbe média en passant tout simplement ce titre. Il est temps d'écouter maintenant la crash testeuse presque zéro déchet, Charlène Chanteloup dans son quotidien. Donc là, en plein cœur de l'épicerie de Saint-Rémy-la-Varenne, un lieu de vie qui vit vraiment, mais vraiment, vraiment dans ce petit village de 1000 âmes, donc en Anjou. Pourquoi vous venez à l'épicerie ici?
Eh bien, je viens parce que ça fait pas longtemps qu'elle existe, cette épicerie, et c'est une petite merveille, et on trouve beaucoup de produits bio, et il y a une très belle proposition aussi de vin bio, et Charlène, elle est juste tout à fait géniale, et ça met plein de soleil partout. Voilà quelques raisons pour venir ici.
Et donc, vous habitez Saint-Rémy?
Non, je n'habite pas Saint-Rémy, j'habite sur Gennevilliers-de-Loire, dans un petit coin de campagne.
Donc, vous venez exprès pour l'épicerie quand il y a besoin.
Oui, j'essaye en général de cumuler plusieurs choses. Il y a un petit bistrot sympa à côté aussi. Puis une proposition de fruits et légumes bio à Saint-Rémy aussi. Et j'arrive à venir en vélo. C'est pas le cas aujourd'hui, mais je viens en vélo aussi. Comme ça, je culpabilise moins de venir un peu loin de chez moi.
J'espère que nous allons ne pas être trop coupés.
Ah, mais en même temps, c'est le principe même d'une épicerie.
Oui, tout à fait. Autant de fois que je suis coupée, je fais de l'argent.
C'est exactement.
C'est mieux.
Donc, du coup, Charlène, est-ce que vous pouvez tout simplement raconter un peu la genèse de la création de l'épicerie?
Pour raconter un peu comment ça s'est passé, ben c'est très simple. Je suis infirmière de formation. Ensuite, j'étais enseignante en lycée professionnel. Et puis, j'en ai eu assez. Et je passais tous les matins devant ce bâtiment avec le numéro de portable écrit de l'ancien propriétaire sur un panneau de plastique, je m'en rappelle, au marqueur. Et j'ai une voix qui me dit « Appelle, 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 Charlène ». Et un jour où j'étais particulièrement agacée par ma journée de travail, je me suis dit « J'appelle ». Et c'est comme ça qu'en fait j'ai rencontré... Alors j'ai été à la rencontre du lieu, donc l'ancienne boulangerie du village, mais surtout à la rencontre du couple de gens propriétaires donc qui ont aujourd'hui 78 ans. Et donc et j'ai adoré ces gens, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré leur amour du village, leur façon de voir le commerce. Et c'est comme ça en fait que y a plutôt une histoire d'amitié transgénérationnelle qui est née de ça, et c'est des gens que je vois encore beaucoup, que je côtoie énormément, que mes enfants connaissent bien, et ils sont ravis, parce que ça a quand même été un processus long, hein, le rachat de l'épicerie, les travaux, etc. Ils sont ravis de voir que ça ait marché, et qu'en fait, ils m'ont inculqué, et je crois que c'est pour ça que ça a marché, et qu'ils m'ont laissé vraiment le temps d'acheter et de faire tout ce qui était business plan, etc. Ils ont été très patients, alors que de nombreuses personnes étaient intéressées pour racheter. Ils ont senti que cet amour pour les gens, il allait avoir une continuité par rapport à eux. Et que c'était pas simplement du business, quelque part. Acheter à manger, vendre à manger, c'est facile. Par contre, créer un lieu chaleureux, un lieu social, un lieu de vie, un lieu où on se rencontre et où on est bien, ça, c'est plus difficile. Ça, c'était un peu l'idéal pour moi. Idéal maintenant, ça fait 9 mois que j'ai ouvert, idéal relevé, puisque c'est ce que tout le monde retient de l'épicerie. C'est oui, on va acheter une salade et du pain comme la dame de tout à l'heure, mais on discute, on rigole, on passe un bon moment et on a envie de revenir en fait.
Oui, parce que finalement, c'est pas, on est dans une commune donc de 2000 personnes environ. Il y a pas, c'est aussi beaucoup de personnes de passage finalement qui viennent à l'épicerie.
Alors, c'est beaucoup de résidents du village quand même.
Quand même, oui.
Ah ouais. C'était la grande surprise. On n'avait pas tablé sur autant de gens du village, mais si les gens jouent le jeu, les gens beaucoup se apprécient pouvoir simplement faire leur course à pied avec leur panier d'osier sous le bras. Alors des personnes âgées, mais pas que, il y a beaucoup de jeunes qui se sont un petit peu posé la question de leur manière de consommer. On est quand même dans une démarche comme ça, un peu tous, et qui voient plus de sens à prendre son panier, marcher un peu, faire du vélo. Il y a beaucoup de gens à vélo, faire quasiment toutes leurs courses chez moi, ou avec d'autres producteurs dans le coin, mais vraiment essayer de changer cette manière d'acheter, et puis plus responsable, plus juste quelque part. Et donc énormément de gens du coin de tous les âges. Mais je glane pas. Enfin, c'est pas tant de touristes que ça ou des gens juste de passage, pas du tout.
D'accord. Ouais, donc là, j'ai eu un coup de peau de voir deux clients.
Bah, aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'on a la fête du prieuré, donc on a les orthomnables du prieuré, donc il va y avoir beaucoup de gens de l'extérieur qui vont venir aujourd'hui. Mais non, globalement, toute ma semaine, le week-end aussi, c'est beaucoup aussi des gens de l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de sentiers de randonnée, beaucoup de balades à vélo ou à pied. Mais en semaine, non, j'ai mes petits clients habituels que je connais bien. J'étais infirmière avant, alors. Ça m'est arrivé de prendre des tensions pour des personnes qui n'étaient pas en forme. Je dis, je vais prendre une petite tension. Mais de bon cœur, en fait.
Bah oui.
Mais que voilà, je les connais bien et j'ai plaisir à les voir arriver avec leur déambulateur parfois, leur béquille, et marcher jusqu'ici pour acheter leur pain. Les kinés, j'ai eu un kiné qui est venu, il m'a dit mais merci parce que on va plus avoir besoin de nous, les gens se remettent à marcher, à faire du sport depuis que t'as ouvert.
Ouais, ça c'est
bah, tant mieux. Ouais.
Bah c'est clair. Et donc là on trouve que du local finalement,
non.
Du bio. Ou...
Alors mon slogan c'est bio, local et pas que. Et pas que. C'est tout le reste. En fait, le challenge a été de proposer à mes clients des produits de qualité à des prix raisonnables. Donc, si le bio était hors de prix, je prenais pas. Si le bio vient du Pakistan, je prends pas. Je préfère du riz, par exemple, du riz français, plutôt pas bio, plutôt. Enfin, vous voyez la logique.
Complètement. Ouais. C'est clair.
En fait, essayer de réfléchir dans mes propositions. J'ai quand même pas autant de mètres carrés qu'une supérette, mais essayer de se dire tiens, voilà, on va manger en étant un peu intelligent.
En tout cas, quand on rentre dans l'épicerie, il y a énorme. Je trouve que quand même, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de diversité. Et puis, j'ai regardé quand même aussi au niveau des prix, on est ultra compétitif. Limite, ça donne envie de faire 20 bornes pour venir.
Mais non, l'empreinte carbone, il a rien compris, monsieur
Madiot. Non, mais c'est clair.
Faut en monter d'autres ailleurs.
Ouais, bah oui, faut reprendre le concept.
Salut Camille. Tu appelles si tu as besoin que je te coupe de la viande ou que je te coupe du fromage. Ah, j'ai une cliente qui a une cliente de Saint-Rémy-la-Varenne justement.
Qui a besoin donc
de fromage.
De fromage.
Eh ben bisous, à demain peut-être bien. Alors, avec ceci, du boudin sucré. Monsieur du pain, c'est ça?
Oui.
Deux baguettes mises de côté.
Ouais, c'est ça. Je vais prendre le temps, je sais pas.
Salut, ça va? Salut. Ça va encore?
Pourquoi vous venez ici à l'épicerie?
Pour l'accueil, pour la joie, la bonne humeur et les produits, évidemment. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des villages où on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de dynamique, où ça ne bouge pas, et d'autres, on ne sait pas non plus pourquoi il y a une dynamique. Et Saint-Rémy, bah, tout va bien, tout se passe bien, il y a une super épicerie, un super bar, c'est dynamique.
En tout cas, on sent qu'il y a une très très bonne ambiance ici, régulièrement, avec les clients. Enfin, on sent qu'il y a une vraie proximité, et ça, c'est vraiment hyper agréable.
Donc là, c'est Larry.
Ouais.
Larry, c'est un autre client à moi. Alors, des fois, Larry vient.
Ouais.
Pas pour acheter, juste pour le fun. Il s'assoit ici où je suis et il me regarde. Il adore faire ça le dimanche.
Ok, juste pour papoter.
Pour papoter, me regarder bosser, puis intervenir si besoin est. Il adore faire ça.
Voilà. Même pas boire un petit café dans les belles tasses de grand-mère.
Un café. Oui, donc oui, effectivement, l'épicerie, hein, superbe, magnifique service à thé qui sert de lieu, enfin de médiateur pour discuter. Un petit café le matin avec des personnes âgées, mais pas que.
Qu'est-ce que vous pensez de l'épicerie de Charlène ?
Eh ben, moi, j'ai découvert l'épicerie l'année dernière complètement par hasard parce que en fait, on lorgnait un peu sur le bâtiment avec ma copine. Qui était un peu, on va dire, à l'abandon. Et en fait, un jour, on est arrivé, on a vu qu'il y avait une épicerie en cours et qui demandait des chantiers participatifs. Et on s'est arrêté un soir, on a dit, on va proposer notre aide. Et on s'est arrêté, on a proposé notre aide. Et le lendemain, on a fait la peinture des petits trucs à droite à gauche pendant toute la journée. Et hyper cool.
D'accord.
Ouais.
Super bien. Et qu'est-ce que vous pensez d'avoir une épicerie comme ça, justement, de proximité?
Ça fait énormément de bien, parce qu'on est vraiment un petit village un peu reculé de tout. On est vraiment entre Angers et Saumur. Du coup, nous étant en déplacement la semaine, quand on arrive le week-end, on n'a pas spécialement envie de se balader à droite à gauche. Et rien que le fait d'avoir des petits produits locaux, des petits trucs de saison, c'est franchement le top. Les prix sont carrément abordables, tout est nickel. Les coquillettes sont bonnes. Et non, franchement, c'est le top, quoi. Qu'il y ait du pain ou des confiseries ou vraiment des petits produits locaux, que ce soit des légumes ou des fruits ou des produits secs, c'est franchement super, ouais.
Ouais, on trouve vraiment tout.
Ouais, on trouve vraiment tout, même que ce soit du savon, du dentifrice en dur, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps, ou alors quand on le voit, c'est avec des prix qui défient toute concurrence, là. Donc c'est assez cool. Puis le fait de savoir que c'est de la région. Principalement, ça fait du bien.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases un message de motivation pour faire venir les gens directement dans l'épicerie?
Alors à l'épicerie, ça se décrit pas, ça se vit.
Eh ben voilà, c'est super.
Venez.
Ça se vit.
Venez, venez. Merci.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Merci Charlène pour votre accueil dans votre épicerie de Saint-Rémy-la-Varenne. Chers auditeurs et auditrices, si vous passez dans le secteur, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Je ne sais pas vous, mais cette ambiance d'épicerie m'a mis en appétit. Il est l'heure d'écouter la chronique et gastronomique du chef Hervé Chéneau.
De la fourche à la fourchette, une chronique du chef Hervé Chéneau.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aurais pu aller payer mes ardoises, vous savez, avoir un compte ou des dettes dans un débit de boisson. Eh bien, pas du tout, il ne s'agit pas de cela. Je me suis rendu jeudi soir et vendredi soir, oui, deux soirs de suite, mon cher Yves, dans ce fameux restaurant L'Ardoise, ouvert depuis juin dernier sur une place d'Angers en pleine mutation, la place Molière. D'ailleurs, autour de cette place, plein de nouveautés. Un crédit mutuel en plein travaux et avec le projet d'avoir sur sa grande terrasse un rooftop. Vous verrez notamment d'en haut la cathédrale, le château, le quai de la Savate, la place La Rochefoucauld, le nouveau pont des métiers du futur tramway, un nouveau restaurant aussi fraîchement ouvert, Advina, et très bientôt les nouvelles halles, toute surface vitrée appelée Biltoki. Je reviens à nos moutons. Quand vous rentrez à l'ardoise, vous tombez face à la cuisine, toute ouverte, des deux chefs et associés, j'ai nommé Brice Sanchez et Thibaut Savornin, deux anciens cuisiniers de la célèbre abbaye de Fontevraud à Saumur. Ça sent déjà très bon, une cuisine tournée vers la Méditerranée. Un accueil très chaleureux. D'ailleurs, quand je rentre, Thibaut me dit toujours « Bonjour, monsieur le président ». Cela vous met en joie aussitôt. Moi, je dis qu'ils sont top et professionnels. Vous pouvez démarrer votre repas à base d'excellents cocktails et d'antipastis, tous meilleurs les uns que les autres. Je pense d'ailleurs à ce pain brioché épais aux herbes que vous trempez dans une huile d'olive parfumée que l'on dégusterait à la petite cuillère accompagnée de tabadane maison, tellement c'est bon. Nous avons eu tour à tour droit à des Saint-Jacques snackés avec sauce tomate maison au basilic ultra frais. Puis par la suite, un poisson du marché avec une cuisson parfaite, des légumes rôtis de saison. Je voudrais souligner, pour ceux qui aiment les frites d'ailleurs, que les frites maison, des binges à l'ardoise, sont d'abord pré-cuites à l'eau avant d'être saisies en friteuse au dernier moment à 180 degrés. Pour faire des économies d'huile, d'arachide, effectivement, le fait de cuire à l'eau des pommes de terre vont permettre de garder une huile d'arachide un peu plus longtemps. C'est ça, faire des économies. Je vais craquer sur le dessert par la suite. Devinez quoi ? Une profiterole. Mais vous allez me dire, une seule ? Mais quelle profiterole ! Genre tête de nègre, si vous voyez. Un service de qualité assuré par Sarah, une petite voisine qui habitait à côté de chez moi. Dites-moi Yves, répondez-moi franchement. Aimez-vous les têtes de nègre ?
Alors chef, pour répondre à votre question, j'adore hein, les têtes de nègre, je trouve que c'est un excellent dessert, mais j'avoue que ça fait plusieurs années que j'en ai pas mangé, alors avec votre chronique, je pense que je vais aller m'en acheter. Vous m'avez vraiment donné envie à nouveau d'en prendre.
Les voix de l'écho, Une émission présentée par Yves Maguin.
Et maintenant, comme je vous l'avais annoncé, nous allons en savoir un peu plus sur la coach Anne Texereau. Donc pareil, j'ai été à sa rencontre chez elle et nous avons pu échanger sur ce qu'elle fait au quotidien et un peu également son parcours. Donc Anne, est-ce que vous pouvez donc vous présenter un peu plus à nos auditeurs ?
Oui, alors je vais le prendre sous un angle à la fois professionnel et personnel, parce que pour moi, on ne peut pas, se séparer en deux, même si parfois dans le monde des organisations, on dit de déposer poser ses affaires personnelles à la porte. Eh bien moi, c'est plutôt l'inverse. Je vous amène tout le paquet. Et donc, en fait, je suis aujourd'hui à la fois coach facilitatrice pour les organisations, où je m'intéresse à créer un pont entre sagesse et business, parce que je pense qu'il est grand temps de remettre beaucoup plus d'humains dans tous les systèmes et les environnements professionnels. Ça, c'est une première partie. Et l'autre partie, je fais aussi des consultations pour des personnes qui... en fait, qui ont besoin d'accompagnement dans leur processus d'évolution, je dirais d'éveil. Et je pourrais me définir comme un passeur, puisqu'en fait, j'accompagne des personnes à passer des changements dans leur vie. Ça peut être des changements qui touchent la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle. Ça peut être un deuil, une rupture... tout type de changement d'ailleurs, plus ou moins grand. Et j'accompagne ces personnes à passer, je dirais, des portes ou des caps vibratoires pour accéder à des nouveaux états de conscience ou des nouveaux niveaux de conscience. Et c'est pour ça que j'aime bien ce mot passeur, et il m'a beaucoup inspirée parce que j'ai créé il y a un peu plus d'un an maintenant mon site internet qui s'appelle donc le passage-du-6 annetexereau.com. Et donc vous pouvez retrouver effectivement la palette un petit peu de ce que je propose. Voilà pour faire court, mais on est tous des boules à facettes, je pourrais dire, un peu comme dans les boîtes de nuit, et on est multiples en fait. Et c'est très intéressant d'aller regarder tout ce potentiel qui est caché en nous, mais qui demande à être révélé. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, au cœur de mon travail.
Ok. Et donc, les chroniques qui ont été faites une fois par mois donc, dans l'émission Les Voix de l'écho s'appellent donc « Je sème, donc je suis » avec le S'AIME. De quoi allons-nous parler tous les mois ?
Oui. Alors peut-être déjà pour expliquer, parce que c'est vrai que on peut le voir, je sème avec le verbe semer, parce qu'il s'agit de ça aussi, mais c'est aussi, comme vous l'avez souligné, Yves, sème S'AIME. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'aller à l'intérieur de soi pour se retrouver pleinement, justement dans toutes ces facettes dont je parlais avant, dans ce, je pourrais dire, sa souveraineté dans son être essentiel. Et c'est parce qu'on a retrouvé cette racine-là, parce que pour moi, nous avons des racines terrestres, mais aussi des racines célestes, que à partir du moment où on a fait cette descente en soi, et au plus profond de soi, au niveau de son cœur, eh bien que on peut après être. Et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que dans, c'est un autre mouvement. Parfois, on pense que c'est parce qu'on fait qu'on existe. Donc c'est je fais, donc je suis. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est je suis pleinement moi parce que je m'aime profondément à l'intérieur de moi, et parce que je suis allée toucher ça. Eh bien après, je peux œuvrer dans la matière, je peux faire. Alors, c'est hautement philosophique peut-être de l'expliquer de cette manière-là, mais pour moi, ça provient de cette dynamique et c'est très très vibrant, très réjouissant pour expliquer aussi que nous sommes des êtres multipotentiels.
Ok.
Et dans nos chroniques, pour le coup, j'anticipe peut-être votre question, Yves. Dans les chroniques, eh bien, je vais m'attacher à faire des ponts justement avec, je dirais, notre être profond, et de donner aussi des clés à nos auditeurs, parce que des fois, on est un petit peu, c'est comme si on n'avait pas appris, on avait perdu le mode d'emploi. Donc, je pense qu'à chacune de mes chroniques, je vous ferai un clin d'œil, chers auditeurs qui nous écoutez, pour que vous puissiez réfléchir sur vous. Et puis, à notre invité, évidemment, parce que c'est lui aussi qui est l'élément phare, en fait, de nos émissions à chaque fois.
Exactement. Comment ça se passe, on va dire, quelle a été la genèse et le cheminement pour arriver à ce métier-là de de coaching.
Alors, moi, j'ai un parcours très atypique et je dirais que je suis généraliste. C'est-à-dire, je suis très curieuse et je suis une touche à tout. Et les gens qui sont comme moi, c'est très difficile de les mettre dans un cadre d'organisation ou d'entreprise. Donc, j'ai fait des activités très variées et parfois, j'ai pas toujours vu le lien entre ces activités. Je vais vous prendre un exemple. J'ai fait des études de langue. J'étais d'ailleurs à l'UCO, à la Cato, à l'IPLV exactement, Institut de perfectionnement langue vivante. Et jusqu'à dernièrement, 2022, mes langues ne m'ont pas servi, ou pas vraiment, en tout cas d'un point de vue personnel, mais non pas d'un point de vue professionnel. Dernièrement, ça s'est activé parce qu'en fait, je suis partie plusieurs fois à l'étranger pour traduire un enseignant spirituel de anglais à français. Donc j'ai vu cette pièce de mon puzzle, je pourrais dire, s'activer. Donc j'ai fait un parcours de langue et après j'ai eu envie d'aller plutôt aller dans le marketing et la communication. Et donc en fait j'ai exercé pendant 7 ans en tant que chargée de com et marketing dans un organisme de formation qui préparait au métier du conseil. Et quand j'ai découvert cet environnement-là professionnel qui est fascinant, ça m'a tout de suite donné envie de faire du coaching, mais je connaissais pas bien le mot en fait. C'est un terme américain. Et en France, on n'a pas de traduction pour ça. On utilise ce même mot, hein, le coach, coaching. Coacher, hein, c'est celui qui accompagne, qui guide. Donc j'ai fait, voilà, c'est cette année-là qui m'ont donné une palette un petit peu autour du marketing, la communication que je dirais, j'ai appris sur le terrain. Et puis après, j'ai eu envie, j'étais tellement happée par l'envie de me tourner vers les relations humaines que je suis devenue formatrice. Et j'ai travaillé pendant 10 ans au milieu consulaire à la Chambre de commerce d'Angers en tant que formatrice, je pourrais dire facilitatrice aussi, à partir du moment où on est dans un groupe. Et je travaillais en formation continue avec des adultes pour des formations en communication et management. Et à un moment donné, bah, crise de la quarantaine, comme ça peut arriver à beaucoup de personnes, il y a des crises un peu à chaque dizaine, hein, je préviens nos auditeurs, je me suis formée en passant un diplôme universitaire, à la Cato à nouveau d'ailleurs, puisqu'il se trouve là, en coaching. Et ça m'a donné une espèce de bouffée d'oxygène terrible, avec beaucoup d'espoir, pour aller me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, ce que je suis encore actuellement, puisque je suis en micro-entreprise. Derrière ça, pour répondre à votre question, Yves, la genèse de tout ça, en fait, c'est qu'en filigrane, comme je disais au tout début, on n'est pas coupé en deux. On a aussi une part profonde en nous qui est là, qui résonne, qui vibre, et c'est cette dimension supérieure qui nous appelle. Et moi, je l'ai activée vers l'âge de 17-18 ans, où la première fois de ma vie, en fait, j'ai poussé la porte d'une librairie spirituelle. Et j'ai commencé à plonger dans des ouvrages, dans des sagesses très variées et différentes, et pour essayer de comprendre un petit peu mon chemin de vie à cette époque-là. Et ça m'a passionnée. Et donc j'ai à nouveau touché un peu à tout dans le domaine de la spiritualité, hein, avec cet appel fort intérieur qui ne s'arrête jamais, qui d'ailleurs tout au cours de ma vie encore aujourd'hui. Et cette spiritualité, c'est quoi? Parce que c'est vrai que j'espère que c'est pas un mot tabou sur Radio G, en tout cas. Mais c'est, je pourrais le définir comme ça, c'est cette reliance à notre être supérieur, donc à notre soi, divin même, parce qu'on est issu de la source. Et donc, il y a aussi, je dirais, cet écho-là. Et donc, mon approche a d'abord été très conceptuelle, livresque, essayer de comprendre des choses dans ma vie, et bien au-delà, hein, essayer de comprendre l'expérience de vie, pourquoi nous sommes sur Terre, quel est notre chemin de vie, quelle est notre mission, comment on œuvre, pour qui, au service de quoi. Tout ça est venu, donc c'est des questions pour moi d'ordre philosophique avant tout. Et puis, en parallèle, j'ai aussi commencé à expérimenter, à faire des ateliers, enfin à participer, hein, en tant que participante, à des pratiques différentes. Et je me suis formée, donc au Reiki, initiation chamanique, coaching alchimique avec les 4 éléments, et dernièrement, les annales akashiques qui me permettent en fait de proposer en fait des consultations, cette fois-ci individuel aujourd'hui, mais ça peut être aussi en collectif à l'avenir, où en fait une personne vient avec des questions qu'elle a préparées à l'avance, et je vais inspirer ces questions et obtenir une guidance, une forme de canalisation, je dirais, pour la personne. Et ce qui est merveilleux en fait dans ces consultations de lecture anal akashique, c'est qu'en fait la personne accède à quelque chose qui était caché, mais qui devient d'un seul coup dans un espace divisible. Donc on met je dirais, c'est comme si on accédait à de l'inconscient. Et c'est très vivifiant pour la personne, puisque ça l'aide dans son chemin d'évolution d'âme, je pourrais dire.
Eh bien, c'est un très très beau sujet et très vaste sujet que l'on va donc effectivement explorer tous les mois. Donc merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions.
Merci, merci à vous, Yves, à très bientôt.
L'émission Les Voix de l'Écho touche à sa fin. Merci beaucoup à mes chroniqueurs de s'être prêtés au jeu de l'interview. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site radio-g.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve dans 15 jours sur votre radio préférée, le mercredi 16 novembre 2022, de midi 10 à 13h sur le 101.5 FM. Nous allons parler de nourriture et de repas fait maison. Je reçois Franck Gomez, le créateur de Feedme Home. Prenez soin de vous et à bientôt à l'écoute de Radio.
Radio G 101.5 FM.
maintenant.